Bonjour, bonjour à vous.
Bonjour. Alors Gérald, vous êtes coordinateur des actions de AIDE en Bretagne. AIDE, c'est la première association de lutte contre le sida et les hépatites en France et en Europe. Depuis sa création en 1984, elle a permis plus de 30 000 dépistages au VIH. L'association se consacre à la lutte contre le sida, on l'a dit, et les hépatites, mais on va aujourd'hui se concentrer plus sur le VIH, donc le virus de l'immunodéficience humaine, qui peut causer, on le verra en phase terminale, donc le sida. Et on verra quel est son impact aussi sur le quotidien des personnes infectées. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut peut-être définir ensemble le VIH ?
Bah, tout simplement, le VIH, si on fait la différence avec le sida, et le terme sida, on le connaît beaucoup plus historiquement, mais le VIH, c'est le fait d'avoir un virus dans son corps qui signifie qu'on est séropositif, donc au VIH-Sida. Être séropositif, évidemment, ne veut pas dire malade, veut dire simplement que le virus est dans son corps et que pour faire en sorte qu'il ne se développe pas et qu'il ne bousille pas l'ensemble de nos défenses immunitaires, pour ce faire, on a des traitements, des antirétroviraux, qui vont permettre effectivement au virus de pouvoir se réendormir ou d'être contrôlé et de faire en sorte que les défenses immunitaires remontent, puisque le virus, lorsqu'il rentre dans le corps, utilise les défenses immunitaires pour se développer. Donc à partir du moment où on a un traitement, ça va permettre effectivement de remonter les défenses immunitaires, d'avoir une charge virale que l'on va dire indétectable et qui vont permettre effectivement d'avoir une vie quasi normale pour l'ensemble des personnes séropositives. S'il n'y a pas de traitement, évidemment que le virus va avoir un impact grave sur la santé et qui peut amener jusqu'à la mort si les traitements ne sont pas là.
Et d'autant plus que ce virus, il va cibler vraiment spécifiquement les lymphocytes TCD4, qui sont donc des cellules super importantes pour l'immunité. Et voilà, ça entraîne, on l'a dit justement, une baisse des défenses immunitaires. Alors peut-être qu'on peut revenir sur les différents stades de l'infection au VIH.
Alors c'est vrai que la question qu'on va tout le temps nous poser, c'est quels sont les symptômes. En fait, on peut avoir des symptômes. Alors souvent, c'est l'effet d'une... Alors je dis ça dans cette période, mais d'une espèce de grosse grippe avec effectivement une fièvre qui peut être très très importante pour certaines personnes, accompagnée d'une grande fatigabilité. Mais ça dure un court instant, c'est au moment où effectivement où le virus va rentrer dans le corps et effectivement qu'il va y avoir un effet important dès l'arrivée dans le corps du virus en primo-infection. Donc on va avoir un pic, mais qui va redescendre très vite pour effectivement après progresser très lentement et très régulièrement. Et on peut être séropositif quelques années sans le savoir jusqu'au moment où on n'a plus de défense immunitaire, qu'on va développer effectivement des maladies dites opportunistes qui vont profiter qu'on n'ait plus de défense pour se choper une tuberculose, une pneumocystose, un cytomégalovirus ou autre pathologie qu'on dit opportuniste. Et on ne meurt pas du sida, peut-être pour aller jusqu'au bout, mais on va mourir effectivement d'une pathologie, d'une tuberculose par exemple, lié au virus du sida.
Et est-ce qu'on peut peut-être voir ensemble quels sont les modes de contamination par le VIH ? Comment on est contaminé ?
Alors, il s'agit évidemment souvent dans un cadre sexuel, pénétration vaginale ou anale, selon les rapports, selon l'orientation sexuelle des personnes. Forcément, le virus va passer d'un corps à un autre par un fluide ou des fluides. Et donc pour le VIH, les modes de transmission, il y a 5 fluides à connaître, c'est le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, le liquide préséminal et le lait maternel pour les mamans qui sont séropositives. La salive, non. Mais la salive, on va la retrouver dans la transmission notamment de certaines IST ou alors de l'hépatite B.
D'accord. Et comment est-ce qu'on peut prévenir justement ces contaminations ?
Alors, on a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui nous permettent effectivement d'envisager une santé sexuelle la plus épanouie possible. C'est vrai qu'on va être plutôt dans des messages positifs. Pour ce faire, on a différents outils qui peuvent être adaptés en fonction de ses pratiques, de son orientation, etc. Le premier outil, évidemment, ça va être le dépistage. C'est-à-dire comme toute pathologie, pour savoir si on est atteint d'une pathologie, on fait un dépistage. À partir du moment où on fait un dépistage, et qu'on a donc son bilan et son bilan sérologique, s'il y avait une contamination, ça permettrait de mettre tout de suite la personne sous traitement pour tout de suite couper l'évolution du virus. Ça, c'est la première chose. Donc le dépistage est important. La deuxième chose, c'est le traitement. Le traitement est aussi un outil qui va réduire notamment le risque mortel, mais qui va permettre à la personne d'avoir une vie quasi normale. Ensuite, vous avez un autre outil qui va être le traitement post-exposition. C'est-à-dire que si on a pris un risque non volontairement, souvent, ça peut être une rupture de préservatif, ça arrive souvent. Et du coup, les personnes auront la possibilité, dans les 48 heures qui suivent une prise de risque, de prendre un traitement dit d'urgence et qui va leur permettre, pendant un mois, d'être sous traitement et d'éviter une contamination au VIH.
Et peut-être qu'on peut revenir aussi sur la PrEP.
Alors, on pourrait dire que c'est le contraire du traitement ouais. Post-exposition, évidemment. Et c'est un traitement, la PrEP, qui est un traitement, une prophylaxie pré-exposition et qui va permettre à des personnes qui sont séronégatives, mais qui, pour X raisons qu'on n'a pas à juger, auront des relations non protégées. Parce que le préservatif ne convient pas, parce qu'on n'a pas les moyens de s'en acheter, parce qu'on est allergique au latex, parce que, enfin, toutes les raisons qui font qu'on ne mette pas de préservatif. À ce moment-là, il y a possibilité de prendre un traitement qui finalement est un antirétroviral et qui va permettre effectivement, de manière continue ou de manière discontinue, d'avoir un traitement qui permettra de rester systématiquement séro-négatif, même dans le cadre d'une relation non protégée. Alors attention, là on parle bien du VIH, c'est une prophylaxie qui nous empêche d'avoir une contamination au VIH. Évidemment, ça n'empêche aucune des autres contaminations possibles, à savoir des hépatites ou des infections sexuellement transmissibles.
Bien sûr. Pour revenir peut-être sur le traitement, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, une fois qu'on est séropositif, on prend un traitement pour baisser la charge virale. Quels sont les bénéfices ensuite au quotidien pour les personnes qui le prennent ?
Alors, il faut peut-être faire un petit retour en arrière, si vous le permettez, c'est-à-dire de faire aussi la différence entre ce qu'on a pu vivre dans les années 80, qui étaient les années noires, où on avait très très peu de traitements et là, enfin voilà, c'était à l'époque la ZT, tout le monde a entendu parler de la ZT. Et puis après, ça a été de la monothérapie, de la bithérapie. On est arrivé en trithérapie en 1996. Dès lors, beaucoup de personnes décédaient. Et la vie avec un traitement était extrêmement compliquée. Elle peut encore l'être parce que tout le monde ne prend pas qu'un cachet par jour. Aujourd'hui, une grande majorité des personnes qui sont séropositives sont suivies dans de très très bonnes conditions. Merci aux soignants et aux patients, entre parenthèses, parce qu'ils font un travail extraordinaire depuis des années. Ils évoluent avec l'épidémie comme les personnes séropositives évoluent aussi avec la maladie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une personne séropositive, le traitement qu'elle aura est un traitement, c'est un cachet par jour, avec des effets secondaires qui sont moindres, mais vraiment moindres. Quand je parle des effets secondaires, c'est à l'époque, les gens ils avaient plusieurs dizaines de cachets par jour parfois, et les effets secondaires étaient assez terribles, voire plus terribles finalement que l'infection en elle-même. Donc on prenait des cachets pour traiter l'infection, et en même temps on prenait des cachets pour éviter les effets secondaires. On disait que c'était des cachets de confort, sauf qu'on arrivait à la fin de la journée avec 40 cachets parfois. Aujourd'hui on n'en est plus là. Et du coup, le bénéfice des sous-traitements, c'est déjà d'arriver à avoir une charge virale indétectable, on en parlait tout à l'heure, d'avoir une vie quasi normale, d'avoir un cachet par jour, ce qui n'est pas forcément le plus terrible, et puis surtout d'avoir moins d'effets. Et puis, il y a quelque chose qui est arrivé il y a 3 années à peu près, ça fait 3 ans qu'on l'a annoncé, mais le fait d'être séropositif sous traitement depuis au moins 6 mois observant au traitement permet à la personne de ne plus transmettre le VIH. Ce qui était un petit peu l'épée de Damoclès pour l'ensemble des personnes. Si malgré un rapport protégé en tant que séropo, il y avait une rupture de préservatif, on pouvait avoir pensé à l'éventualité de transmettre le VIH à quelqu'un, ce qui est fou pour les personnes elles-mêmes. Mais du coup, là, on n'est plus là. Et pour les personnes, ça permet d'avoir notamment une vie affective et sexuelle normale. J'aime pas le mot normal, mais retrouver une normalité, en tout cas, dans les possibilités d'avoir des relations et d'être heureux.
Et dans l'une de vos campagnes, on a pu lire « Le VIH n'empêche pas de vivre », on vient de le dire, hein, puisque maintenant les traitements permettent d'avoir une vie à peu près normale. Mais les préjugés, oui, empêchent de vivre. J'aimerais revenir du coup un peu sur les discriminations auxquelles font face les personnes séropositives. Comment lutter contre et quelles sont ces discriminations ?
Alors, il y a un certain nombre de discriminations, mais qui sont parfois, de fait, si on sait qu'une personne a le VIH ou a le sida, parce qu'en général, quand il y a des discriminations, on ne dit pas que la personne est séropositive, on dit qu'elle a le sida. Grosso modo, c'est ça. Or, ce n'est pas vrai, déjà d'une. Donc, les personnes qui discriminent à ce niveau-là se trompent complètement. Ensuite, c'est historique, c'est-à-dire que souvent, les personnes qui peuvent avoir le VIH et dans l'histoire, on a vu que c'était des publics qui étaient plutôt spécifiques, notamment travailler, on parlait des homosexuels, on a parlé des consommateurs de produits, on a parlé des personnes prostituées, enfin, etc., etc. Et on a ciblé, effectivement, différents publics. Donc, on associe aussi parfois, dans les discriminations, le fait d'être séropositif et de ce que ça représente face à l'autre. C'est l'image qu'on renvoie à l'autre. Et forcément, de là, vous aurez PD, machin, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme discrimination. Des gens qui sont ennuyés au quotidien, on les monte du doigt, on les insulte. Donc oui, ça existe. Et je pense que le plus gros problème, finalement, aujourd'hui, quand on est séropositif ou quand on nous annonce ça, c'est le fait de devoir parfois, enfin pas de devoir, mais d'être amené à le dire. On est amené à dire, c'est plus facile pour d'autres pathologies de dire, ben voilà, je viens d'apprendre que j'ai le cancer, parce que ça n'amène aucune autre interrogation. C'est la malchance, c'est le cancer, voilà, c'est terrible. Quand vous annoncez que vous êtes séropositif, ah mais t'es gay, ah mais du coup t'as fait n'importe quoi, t'as pris de la drogue ou etc etc, et ça renvoie tout de suite à des éléments qui sont mais très loin finalement de la santé au final, et que parfois on doit dire, si ce n'est à son partenaire ou sa partenaire, le fait, ben voilà, je viens d'apprendre ma séropositivité, c'est ce qui est extrêmement difficile et c'est ce qui rapporte souvent et qui ramène souvent au problème de discrimination dont les personnes peuvent être victimes. Alors, juste pour lutter contre les discriminations, la première chose, c'est de pouvoir informer les gens qui n'ont pas connaissance de la réalité, finalement, des choses. Quand on dit qu'une personne séropositive ne transmet plus le VIH, eh bien, on n'est plus responsable. En tout cas, les personnes ne sont plus responsables de ça et il faut qu'on passe à autre chose, quoi. Mais après, c'est de l'information. C'est essayer aussi, parfois, de lancer des informations ou une communication à des personnes pour qu'elles réagissent et qu'elles essayent de comprendre elles-mêmes que, finalement, les discriminations, ça ne sert à rien. Au contraire, ça peut parfois même empêcher les personnes de se soigner ou même d'être attentifs et d'être acteurs ou actrices de leur propre santé. Donc, lutter contre les discriminations, c'est nécessaire, oui.
Et à une échelle plus large, est-ce qu'il y a des freins, peut-être, quand on est séropositif dans la vie quotidienne, quand on veut voyager ou quand on veut emprunter à la banque, ce genre de choses ?
Alors, oui, évidemment, au-delà de la santé en tant que tel, il y a un impact sur le quotidien. Devoir prendre un crédit, c'est possible quand on est séropositif. Et je pense que l'association Aide a aussi, avec d'autres structures, milité pour faire en sorte que les assurances soient moins chères. Ce n'est pas le crédit. Souvent, le crédit, il est accepté par la banque. Ce qui n'est pas accepté, c'est parce que l'assurance, elle, arrive derrière avec un dossier médical et va augmenter effectivement les primes qui font qu'on ne peut plus les payer au final. Donc, on lutte contre ça. On arrive effectivement à avoir des conventions, notamment qui vont permettre aux personnes de pouvoir s'y appuyer et de pouvoir enfin accéder notamment à des crédits, par exemple. Mais on a eu le problème aussi des obsèques des personnes séropositives, où il était très très compliqué pour les personnes d'avoir une mort classique, avec la mise en bière, avec la famille qui peut faire le deuil, qui peut voir le corps. Les personnes séropositives étaient directement enfermées dans des caissons en plomb et il n'y avait pas possibilité de faire le deuil pour son enfant, son frère, sa femme, enfin, etc. quoi. Vous voyez, c'est des combats au quotidien et pourtant l'épidémie a 40 ans aujourd'hui.
Et on a encore des problématiques.
Et on a encore beaucoup, beaucoup de problématiques, ouais.
Peut-être qu'on peut en reparler un petit peu, on l'a évoqué tout à l'heure, les personnes exposées, donc il y a différents profils qui reviennent souvent. Pourquoi et quelles difficultés rencontrent-elles et comment on peut les aider aussi
Alors, en ce qui concerne Aide, en tout cas, nous, depuis le début de l'épidémie, nous travaillons avec les populations les plus concernées face à l'épidémie. On parle de personnes dites vulnérables face à l'épidémie de VIH. Les publics qui nous concernent vont être des publics historiques, comme les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, comme l'homme homosexuel, bisexuel ou hétérosexuel, curieux ou hétérosexuel, qui pourraient avoir des relations, mais qui se considèrent toujours comme hétérosexuels. Après, ça va être les travailleuses, les travailleurs du sexe, les personnes détenues, les personnes trans, les migrants, les consommateurs de produits psychoactifs, entre autres, et puis de manière plus précise, les femmes. Parce que les femmes, par rapport aux hommes, ont des vulnérabilités qui sont plus importantes. Je parle notamment physiologiquement avec les muqueuses qui sont beaucoup plus étendues et beaucoup plus fragiles. Et de plus, les femmes réceptionnent. C'est à l'inverse. Voilà, on pourrait se poser les questions autrement, mais le public femme fait partie des publics que l'on dit vulnérables, avec des spécificités sur certaines femmes, notamment les femmes d'origine subsaharienne, qui peuvent être aussi très très vulnérables face à l'épidémie, comme depuis le début de l'épidémie d'ailleurs. Mmh. Alors après, souvent on me pose la question des jeunes. Alors les jeunes, on n'intervient pas forcément auprès des jeunes, et c'est pas chez les jeunes que l'épidémie est significative. En revanche, AIDE aura une attention particulière sur les jeunes des publics que je viens de vous citer. Mmh. Ça, c'est une réalité. Et puis, pour les autres publics, notamment jeunes, collégiens, lycéens, voire même étudiants, là, c'est vrai qu'on peut avoir des structures qui vont accompagner, planning familial, ou d'autres structures qui peuvent intervenir dans le processus de cours. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les outils dont vous m'avez parlé de réduction des risques et ceux qui sont importants, notamment pour les jeunes, c'est tous ces outils-là. Le traitement d'urgence, la PrEP, et puis on n'a pas parlé du dépistage, mais il y a la vaccination aussi qui est importante, des IST ou de certaines hépatites, et puis le matériel de prévention de base, c'est les préservatifs. Mmh. Donc préservatifs plus gel, mais c'est pour éviter les ruptures s'il n'y a pas de gel.
Donc la vaccination, c'était pour les hépatites surtout.
Oui, pour les hépatites et pour les infections sexuellement transmissibles. Il n'y a pas de vaccin, évidemment, pour le VIH. On a un traitement, à contrario de certaines hépatites, où l'hépatite B, qui est une hépatite dont les modes de transmission sont les mêmes que le VIH, mais plus la salive, là, effectivement, il y a un vaccin et qui peut éviter, en tout cas, d'avoir un problème lié au foie, s'agissant d'une hépatite.
Et est-ce que la pandémie Covid-19 a eu un impact aussi sur les dépistages et la prise en charge des personnes exposées ?
Alors malheureusement, elle a eu un impact sur toute la société. Mmh. Et de fait, une épidémie peut en cacher une autre. On a tenu bon en réadaptant l'intégralité de nos actions. Forcément, il y a eu un frein. Il y a eu un frein de fait général et qui fait que des personnes, effectivement, n'allaient plus à l'hôpital ou limitaient ou reculaient les rendez-vous, etc., pour se faire dépister. Donc oui, ça a de fait eu un frein. Maintenant, je pense que toutes les personnes qui étaient suivies en milieu infectieux au regard de la situation Covid ont malgré tout été très accompagnées par les médecins ou les infirmières, que pour éviter de se déplacer pour faire du dépistage, on a envoyé par exemple nous des autotests gratuitement, qu'on a continué à maintenir le lien avec les personnes. Ce qui a peut-être été plus compliqué, c'est pour des personnes séropositives qui sont en situation d'isolement, de recul par rapport au milieu urbain et qui ont pu se retrouver dans des situations très inconfortables parce que rupture des liens sociaux, comme tout le monde, quand on a une pathologie comme ça et qu'on n'est pas forcément bien en termes de santé avec cette pathologie, de fait, le fait d'arrêter les liens, ça devient compliqué. Mais encore une fois, on s'est efforcé d'organiser au mieux tout ce qu'on pouvait faire. Alors, toute association confondue, on a un milieu en Bretagne associatif qui est exceptionnel, vraiment, pour avoir connu d'autres milieux. Et je trouve qu'en Bretagne, la solidarité est passée au-delà et a permis en tout cas à des personnes de pouvoir au moins se raccrocher à quelque chose.
Et peut-être pour finir, on l'a dit tout à l'heure, mais ça a énormément évolué en positif. Il y a eu beaucoup de progrès depuis les années 80. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut attendre des années à venir?
Ce qu'on peut attendre des années à venir? Alors un vaccin, parce qu'il faut toujours l'espérer. On voit bien que le vaccin, c'est très compliqué pour n'importe quelle pathologie d'ailleurs, mais en particulier le VIH pour ce qui nous concerne. Ça fait 40 ans qu'on espère en avoir un. En revanche, la recherche a avancé de manière géniale sur notamment les nouvelles molécules. On a dit tout à l'heure que maintenant, on en est à un cachet par jour, grosso modo, contre 30 avant. Donc, on a beaucoup de molécules, ce qui nous permet d'organiser beaucoup de trithérapies différentes. Et puis, la recherche a avancé sur l'allègement thérapeutique, de diminuer donc, les prises, etc., de faire la différence aussi entre un cachet qui est donné à un homme et un cachet qui est donné à une femme ou à un enfant. Donc, de voir comment on peut aménager ça. Les effets secondaires sont moindres, encore une fois. Et puis, aujourd'hui, vous voyez, il y a un nouveau traitement qui va sortir. Et l'idée, c'est d'avoir une injection, de plus avoir de cachet tous les jours, mais d'avoir une injection, par exemple, pour 2 mois ou 3 mois de traitement. Mmh. Et du coup, retourner faire son injection. Donc, vous voyez bien que tout évolue, que la recherche avance vraiment très bien et tant mieux pour les personnes séropos. Et puis que les choses, même si on n'arrive pas à un vaccin, en tout cas, ça permet aux personnes d'avoir une vie, encore une fois, quasi normale et qui peuvent évoluer de manière, alors j'allais dire positivement, mais c'est le cas en tout cas pour beaucoup.
Ben, merci beaucoup. On rappelle que Ed se trouve donc 43 rue Saint-Hélier à Rennes et qu'on peut vous contacter assez facilement sur Facebook, les réseaux, par mail. Par téléphone aussi au 02 99 30 01 30.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Gérard Garda d'être venu dans l'inattendu sur Cilab.